We Do Biz, premier sur les entrepreneurs.
Les entrepreneurs bougent, créent, partagent sur We Do Biz.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici Thomas Benzazon et je vous retrouve une fois de plus pour votre émission en direct Entrepreneur le live. D'après les derniers bilans, ce sont au moins 48 otages, dont 37 étrangers de 8 nationalités différentes qui auraient péri lors de la prise d'otages sur le site gazier d'In Amenas. C'est donc sur leur lieu de travail qu'ils ont été confrontés au terrorisme. Aussi rare soit-il, comment prévenir de tels drames? Comment réagir à pareille situation? Que vous soyez dirigeant d'entreprise ou salarié expatrié, quelles sont les menaces terroristes qui pèsent sur vous? Sans sombrer dans le catastrophisme, ces questions de sécurité méritent d'être posées. Nous avons intitulé cette émission « Mes salariés pris en otage, de la prévention à l'action ». Et sur le plateau de We Do Biz Radio, j'accueille trois experts du sujet. Christophe Coppen, ancien patron des négociateurs du RAID. Vous êtes aujourd'hui à la tête de Coppen Conseil, cabinet de conseil en formation en matière de sûreté, de gestion des conflits et de négociations complexes. Vous êtes avec nous par téléphone. J'ai également avec moi sur le plateau Olivier Assy, directeur général du club des directeurs de sécurité d'entreprise et directeur de la revue Sécurité. Stratégie. Enfin, j'accueille Guillaume Didier, ex-porte-parole du ministère de la Justice, directeur conseil chez Veil Solis Corporate. Bonjour à vous trois. Je rappelle bien sûr à nos auditeurs qu'ils peuvent commenter, compléter, bien évidemment vous questionner, vous les inviter sur les comptes Twitter et Facebook de We Do Biz. Alors messieurs, commençons par la prise d'otage d'In Amenas. C'était prévisible une telle prise d'otage. Guillaume Didier.
Je pense qu'une telle prise d'otage faisait partie des risques possibles pour les entreprises qui interviennent sur un site gazier en Algérie. Un risque possible, ça ne veut pas dire qu'il va se réaliser, ça veut simplement dire qu'il faut l'identifier et s'y préparer au cas où, malheureusement, cet événement dramatique se réalise.
Christophe Coppen, je le disais, vous étiez ancien patron des négociateurs du RAID, vous avez été confronté à un grand nombre de situations plus ou moins similaires. On s'y prépare, toutes les solutions et au contraire, les risques sont-ils envisagés?
Oui, l'ensemble des forces spéciales dans tous les pays, en fait, font un environnement sur toutes les entreprises à risque et tous les secteurs à risque susceptibles d'entraîner des opérations, donc, de ce type-là, une action criminelle quelconque. Donc, il y a des sites qui sont très sensibles en France, mais également à l'étranger. Et en fait, la responsabilité des unités d'intervention est d'aller justement repérer ce que peuvent être potentiellement ces cibles-là et se préparer à intervenir dedans parce que certains nécessitent des équipements particuliers ou alors des modes opératoires particuliers. Alors, en l'occurrence, vous voyez, un site gazier, il y a une explosivité qui est très importante. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser n'importe quel type d'arme, on ne peut pas utiliser des grenades, des choses comme ça, sauf à prendre le risque, bien évidemment, de tout faire sauter. Donc, les méthodes d'intervention sont proportionnelles et adaptées, en fait, à chaque site.
Vous souhaitiez intervenir, Olivier Assine.
Oui, uniquement pour dire que la semaine dernière, il y a une intervention de la France au Mali et qu'à partir de ce moment-là, évidemment, toutes les entreprises françaises, européennes étaient vigilantes, envoyaient des messages d'alerte à leurs salariés. Donc oui, on s'attendait à quelque chose. Alors, est-ce que c'était une prise d'otage qui est quand même une prise d'otage particulière? C'est une prise d'otage de masse avec beaucoup de monde.
Ça devait être préparé. J'imagine, ça devait même être préparé avant cette intervention.
Certainement, oui. Pour préparer ça, il faut plusieurs semaines. Donc, effectivement, ça a pu être préparé en amont. Et peut-être que l'intervention de la France au Mali a été un peu le signal déclencheur.
Concrètement, on est donc sur un site gazier, hein, comme le rappelait Christophe Coppen. C'est un site qui représente 18% de la production de gaz du pays. Ça doit quand même être extrêmement bien protégé. Qu'est-ce qui s'est passé?
Le risque zéro n'existe pas. Vous pouvez surprotéger un site, il sera toujours vulnérable. Il sera vulnérable d'une part physiquement et puis aussi matériellement parce qu'on là c'est pas le cas, mais on a aussi des attaques possibles sur les systèmes d'information et on peut d'ailleurs via les systèmes d'information obtenir un certain nombre d'informations sur la vulnérabilité du réseau. Donc le risque zéro, j'imagine, CBP, les pétroliers sont extrêmement prudents, vigilants. Ils mettent en place à la fois des agents de sécurité armés souvent. Ils renforcent évidemment les protections sur place. Donc, ils doivent avoir même d'ailleurs, peut-être vous en parlerez, mais ils devaient avoir un security manager sur place. Donc voilà, Mais après, quand vous avez une intervention de ce type assez massive, il est difficile de l'empêcher.
Concrètement, qui gère la sécurité sur un site comme ça? C'est chaque entreprise fait avec ses propres moyens, il regroupe ses mêmes moyens?
Alors, par rapport à ça, il y a différentes choses. D'une part, il faut le rappeler, pour des sites comme cela, c'est souvent en partenariat avec les pouvoirs publics. Donc le gouvernement algérien, le ministère de l'Intérieur algérien devait avoir mis, alors il faut vérifier, on a peu d'informations, mais a dû mettre en place un certain nombre de mesures de protection et de coordination avec les entreprises sur place.
Christophe Coppen, en prenant les salariés d'une entreprise en otage, et là en l'occurrence c'était plusieurs entreprises, plusieurs salariés de plusieurs nationalités différentes, quelles sont les réelles motivations et les messages que souhaitent faire passer les terroristes?
Il y a une dimension de publicité en fait de leur action, donc ils cherchent à avoir une tribune. Le côté exceptionnel de cette prise d'otage, parce que on voit bien qu'au-delà d'une centaine d'otages, on est vraiment dans un registre qui est extraordinaire, hein, qui est rare. Eh bien, cette dimension-là, cette surdimension-là, en fait, de la prise d'otages, a une vocation, donc, à tirer l'ensemble donc, des projecteurs sur leur action et donc, permettre d'être la meilleure tribune qui soit, d'une part pour faire du prosélytisme. C'est ce que l'on redoute systématiquement lorsque l'on négocie en fait longtemps avec des groupes terroristes, parce qu'on sait très bien qu'on sert leur cause quelque part, on sert le dessein qui est le leur, et d'autre part, eh bien, c'est peut-être de générer des impulsions chez certains groupes terroristes qui n'osent pas faire les choses, qui n'osent pas passer à l'acte, et qui se disent, bah, au fond, ma foi, pourquoi pas le faire nous aussi, à notre niveau, et sur d'autres cibles.
Et alors, du coup, les entreprises sont suffisamment conscientes de ce type de risque, selon vous?
Oui, la responsabilité pénale des chefs d'entreprise aujourd'hui n'est absolument plus une énigme pour ces responsables. Ils sont conscients, mais il y a toujours, en fait, la question de se dire, est-ce que je fais partie des cibles potentielles ou est-ce que, ma foi, les terroristes ont plus d'intérêt à aller ailleurs? Donc il y a beaucoup d'entreprises en fait qui sont mal préparées face à ce risque-là, tout simplement parce que d'abord il y a une dimension financière importante, hein, à aller préparer des cellules de crise, des exercices de crise, des security managers, etc. Tout ça, ça a un coût particulier qui s'impacte également sur la facturation donc des entreprises sur leurs clients. Et donc eh bien ma foi, de temps en temps, on est dans une ce qu'on appelle un risque consenti, c'est-à-dire que on sait qu'on est dans un secteur à risque, on essaye de prévenir tout le monde et de mettre en attention tout le monde sur certaines règles de sécurité, mais ça reste insuffisant par rapport à une volonté criminelle telle que celle qui s'est aboutie là à une menace.
Très bien. Alors restons sur la question de la prévention, hein, si vous le voulez bien. Et évidemment, le risque zéro n'existe pas, mais quelles sont les actions que les entreprises peuvent mettre en place en amont de tels drames pour justement réduire ces risques? Olivier Acide.
Il existe différents capteurs. Quand vous êtes un directeur de la sécurité ou un directeur général d'une entreprise dans ce type de pays, d'une part, vous avez l'appui du Quai d'Orsay pour les entreprises françaises, et notamment, il faut souligner le travail remarquable du centre de crise du Quai d'Orsay, avec qui on travaille. On a signé une convention avec eux qui nous communique de l'information assez régulièrement en période de crise, et ça peut être fort utile. Et donc, dans ce type de partenariat, il y a des échanges réguliers entre les entreprises et le centre.
Concrètement, qu'est-ce qu'on dit au Quai d'Orsay? Quelles informations il faut leur donner?
On donne le niveau d'insécurité sur place, on donne les postures adoptées, on dit s'il faut ou non sortir les personnes, s'il faut qu'elles soient confinées. Pour prendre un exemple très différent, parce qu'il ne faut pas rester dans cette idée de prise d'otage qui est effectivement extrêmement anxiogène, mais si on reprend Fukushima, donc la crise du Japon, à ce moment-là, le Quai d'Orsay, le centre de crise, nous donnait des consignes très très claires, ou de confinement pour certains salariés en fonction de la zone, ou le déplacement vers d'autres régions du Japon, et ces messages sont particulièrement importants. Ensuite, il y a un autre capteur, et je laisserai la parole aux autres interlocuteurs, mais un autre capteur, c'est qu'au sein des ambassades, et notamment c'est le cas pour les ambassades françaises, il faut savoir, et je conseille toutes les entreprises et même PME et TPE qui vont sur place, de prendre contact avec l'agent de sécurité intérieure. Vous avez ce qu'on appelle un ASI, et cet ASI va vous aider, va vous donner un état de la situation sur place, est-ce qu'il est insécure, quelles sont les mesures de sécurité, quels sont les prestataires de sécurité sur lesquels on peut s'appuyer, et les prestataires de sécurité dont il faut se méfier, etc. Donc vraiment, c'est une source très utile, et s'il y avait une chose à retenir de cette émission pour les PDG, c'est bien ça, c'est de prendre le attache auprès de l'ambassade, déjà de recenser ses salariés qui sont sur place, et puis de voir quelles sont les mesures qui peuvent être mises en place.
Donc on a effectivement ces informations qui viennent du quai. Que donne-t-on au quai? On dit qui est où, comment l'entreprise fonctionne?
Ce qui est très important pour l'entreprise, c'est d'avoir identifié le risque. Vous l'avez dit, il ne faut pas surestimer le risque, il ne faut pas non plus le sous-estimer. À partir du moment où on l'a identifié, eh bien, il faut préparer les procédures en interne, il faut former ses personnels, il faut leur donner des fiches réflexes pour savoir qui fait quoi lorsqu'un événement aussi dramatique que celui qui s'est réalisé en Algérie arrive. Il faut que chacun connaisse exactement son rôle, sa position. Il faut que l'on puisse... La priorité des priorités lorsqu'un tel drame arrive, c'est d'assurer la sécurité de ses salariés qui sont pris en otage. La deuxième chose à faire, c'est d'assurer l'information des personnels qui, eux, ne sont pas pris en otage, mais qui sont très inquiets. Il faut également assurer l'information des familles. Et tout ça avec un seul objectif, c'est de ne jamais mettre en danger la vie des otages. Toute information qui serait délivrée par l'entreprise est susceptible de mettre en danger la vie des otages.
J'aimerais qu'on reste quand même malgré tout sur la question de la prévention. On va évidemment aborder toutes ces questions de... Oui,
Olivier Assied. Sur la sensibilisation, je vous invite tous à aller sur le site du CDSE, cdse.fr. On a réalisé, en partenariat avec le centre de crise du ministère des Affaires étrangères, un petit passeport de conseil aux voyageurs, c'est-à-dire tous les directeurs généraux, vous téléchargez ce guide, vous le donnez à vos salariés qui partent en mission, c'est gratuit, donc pour une fois c'est gratuit, ça donne une petite sensibilité, ce qu'il faut faire, pas faire, comment s'inscrire auprès du Quai d'Orsay, enfin toutes les démarches amont justement pour se protéger. C'est une démarche très simple qui ne coûte pas un sou. Vous cliquez sur cds.fr, vous téléchargez, vous envoyez ça à vos salariés qui partent en mission, et déjà vous les avez un tout petit peu sensibilisés. Après il y a des formations, Christophe Coffin pourra vous en parler, il le fait très très bien.
Justement, à quoi peut-on se former quand on parle de prise d'otage notamment, et à quoi est-on formé, Christophe Coppen?
Alors, on est formé déjà à se rendre compte que cette situation peut arriver et que des bonnes réponses ou des bonnes réactions vont permettre de limiter les risques. Les risques donc pour notre vie ou pour la vie de nos collaborateurs ou de partenaires qui sont avec nous. Donc cette dimension est très très importante. Réaliser que l'on est vulnérable et que l'on est susceptible donc de vivre ce type d'événement, et de connaître également les impacts psychologiques qui sont liés en fait à ce genre d'événement, est très important parce que ça en diminue en quelque sorte le côté anxiogène. Voilà. Donc on a un bénéfice immédiat, c'est qu'on accepte plus facilement une situation hors norme quand on est préparé un petit peu à ça. Deuxièmement, il y a des erreurs qui sont flagrantes et qui vont servir les ravisseurs ou servir les terroristes, comme par exemple donner des informations sur soi, sur sa famille, sur son entreprise, sur éventuellement les assurances qui ont été contractées, etc., pour nous couvrir lors de nos déplacements. Ces informations-là vont aggraver en quelque sorte en fait notre situation, ou tout du moins perturber suffisamment la gestion que peut faire le Quai d'Orsay, la cellule de crise et l'entreprise, suffisamment en fait pour complètement déstabiliser la stratégie.
Donc on se forme avant tout mentalement. Revenons sur ces questions de sécurité et de la manière de faire de la prévention en la matière. Vous parliez tous les deux tout à l'heure des security managers. Concrètement, c'est quoi? À quoi ça sert? Quel est le profil type et quelles sont ses missions?
Alors en fait,
Olivier Assied.
Au sein des grandes entreprises internationales, qu'elles soient publiques ou privées, vous avez plusieurs types de responsables de sécurité. D'une part, vous avez un directeur de la sécurité au niveau corporate qui va s'occuper de recenser l'ensemble de l'information au plan international et le communiquer à son comité exécutif et prendre des décisions nécessaires de manière stratégique en matière de sécurité. Après, sur zone, vous pouvez avoir ce qu'on appelle effectivement des security managers, soit en région, soit par site, en fonction de la taille du site et de sa sensibilité. Là, on peut supposer, vu la taille du site et son importance, que sur place, vous aviez un security manager qui va être le relais, un peu la courroie de transmission entre les salariés sur place et le directeur sécurité au niveau corporate. Ils vont communiquer pour voir quelles sont les mesures à mettre en œuvre, s'il faut dégager du budget pour renforcer la sécurité, est-ce qu'il y a des signaux d'alerte, etc. Donc lui, c'est un peu la courroie de transmission, c'est un peu le capteur sur place.
Alors j'entends bien, en même temps les PME ne disposent pas toutes des mêmes moyens, en tout cas financiers, que ceux des grands groupes, et notamment pour embaucher des security managers, comme vous le disiez. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour protéger leurs salariés, toutes nos PME qui partent comme ça à l'export?
Alors ça, je vais faire un petit coup de pub. On a écrit avec Alain Juillet un livre qui s'appelle « Gérer les risques criminels en entreprise » et effectivement, ce constat est important que vous indiquez. Alors, ce qu'on a pu constater, parce qu'on a fait un travail de recensement auprès des grandes entreprises et des PME-PMI, c'est quand même un certain nombre de PME-PMI ont mis en place, ont un poste de responsable sécurité. Alors, ce responsable de la sécurité ne fait pas que ça. Ça peut être le directeur des ressources humaines, ça peut être le directeur juridique, ça peut être le directeur général lui-même, puisqu'il a une appétence, parce que ça l'intéresse, et puisque son business peut se passer dans les zones les plus sensibles. En revanche, et j'insiste sur ce point, si on peut pas aller dans des zones compliquées, comme l'Algérie, comme l'Irak, comme le Mexique, la Colombie, ou comme ça, sans aucune sécurité. Alors, vous allez me dire, oui, bon, alors le DG ne veut pas veut pas passer de temps sur ces problématiques, il veut pas que son DRH non plus, etc. Il faut mieux pas qu'il y aille parce qu'il cherche vraiment les ennuis. En revanche, s'il a cette appétence, après, il peut prendre contact avec des prestataires de sécurité qui vont lui déléguer, qui vont réaliser pour lui un certain nombre de missions de sécurité. Il y a des responsables sécurité externalisés par ces prestataires que je ne citerai pas. Il est facile de les retrouver sur Internet. Et qui peuvent les aider à quoi. Il faut une politique d'accompagnement en matière de sécurité dans les zones sensibles, ça me paraît la moindre des choses. Et malheureusement, il y a un certain nombre de PME, PMI qui ne le font pas et qui mettent en danger leurs salariés.
Alors, Christophe Copen, quelles actions pratiques de sécurité, de sûreté de l'entreprise on peut mettre en place?
Il faut s'assurer que les déplacements, en fait, sont cohérents par rapport au risque local. Donc, si jamais les gens ne sont absolument pas avisés, il y a une petite formation à faire sur quels sont les risques locaux, comment est-ce qu'il faut se déplacer dans les transports en commun, avec des particuliers, le jour, la nuit, etc. Parce qu'il y a des endroits qui sont terriblement dangereux, voilà, en termes de déplacement. Ensuite, il y a des risques qui sont liés à des habitudes criminelles qui sont locales avec... pour certains pays, par exemple, ce qu'on appelle les sugrestroflash, hein, vous allez attirer de l'argent au distributeur ou vous allez fréquenter certains endroits, vous devenez la cible rêvée, et surtout quand vous avez une tête d'étranger, vous devenez la cible rêvée, histoire de pouvoir vous extroquer un petit peu d'argent et éventuellement donc faire payer une petite rançon donc rapidement par la famille avec des mandats, des choses comme ça.
Christophe Copen,
se préparer et donc comme on dit, un homme avisé en vaut deux, eh bien, on a la garantie qu'il restera toujours quelque chose dans l'esprit des expatriés ou des missionnaires qui vont partir, pour que ces questions de sécurité qui concernent également le matériel qu'ils emportent avec eux, puisque la sécurité informatique fait partie, ou la sécurité de l'information fait partie également de cette dimension de sûreté, eh bien, que ces bonnes pratiques, eh bien, soient un peu plus mises en place.
Vous évoquiez un salarié qui irait tirer de l'argent comme ça, qui deviendrait une cible presque enviable ou voire facile. On évoque souvent la question des assurances en matière de sécurité pour des drames comme celui-là qui peut être une prise d'otage. On évoque aussi la possibilité que ce soit plutôt néfaste pour le salarié assuré si tant est que l'information est connue des terroristes.
voyez que cette information concernant les assurances est quelque chose qui ne concerne que la direction générale et les DRH et la direction financière. Donc, en fait, les expatriés ne savent jamais s'ils sont couverts sur quoi que ce soit et n'ont pas la dimension exacte, justement, des types de contrats qui sont pris sur leur tête pour de tels déplacements. Et c'est une bonne chose, car dès lors qu'on aurait cette information, de savoir si on est couvert ou non pour un risque particulier, eh bien, ma foi, on pourrait être beaucoup plus, beaucoup moins sérieux et voilà, et se mettre en danger dans certaines situations.
On évoquait aussi la question des PME, des grands groupes. Est-ce que je vais poser la question de manière très très pragmatique, mais est-ce qu'un salarié de grand groupe est une cible prioritaire comparée à un salarié de PME?
Vous savez, la criminalité à l'étranger, elle est très opportuniste. Ça veut dire que en fait, on a ce que l'on appelle les cibles molles. Les cibles molles, ce sont des gens qui ne sont pas protégés, qui ne sont pas encadrés. Et donc, ces gens-là ont un niveau de vulnérabilité qui est beaucoup plus important. Et quel que soit le profil et le type d'entreprise qui les envoie, eh bien, c'est plutôt le comportement, en fait, qui va générer du risque réellement que l'appartenance à tel ou tel groupe. Bien sûr que si on peut être appartenir au groupe Total et puis décider que ce week-end-là, on ne va pas rester dans notre hôtel et dans le campground, par exemple, où on était, et qu'on va, avec quelqu'un qu'on a rencontré, aller faire un tour dans le pays d'à côté en prenant un visa pour une journée. Ça peut arriver, il y en a plein. Et donc, c'est pas l'appartenance en fait à un grand groupe qui nous garantit de tel et tel niveau de sécurité. C'est vraiment les comportements des gens. Et c'est pour ça que les formations sont importantes, car il faut faire réaliser, en fait, le niveau de danger que courent certains avec des mauvaises pratiques, avec des mauvaises habitudes ou avec un certain laxisme.
On l'entend bien, le chef d'entreprise doit être sensibilisé, évidemment, à toutes ces questions. Doit-il également sensibiliser l'ensemble de ses salariés?
Il doit faire ce travail. Il doit, en tout cas, pour ceux qui partent à l'étranger en mission, il doit effectivement faire réaliser des missions de sensibilisation. Point important aussi, les salariés qui sont sur place, au bout d'un certain temps, commencent à s'adapter, à s'accoutumer, à ne plus avoir peur. Et il ne faut pas uniquement former les salariés qui sont en partance, il faut faire des piqûres de rappel. Et c'est extrêmement important parce qu'on se rend compte que finalement, les populations les plus dangereuses sont les salariés qui sont plus du tout en mobilité, mais qui sont en expatriation, qui sont là depuis des années et qui pensent, parce qu'ils connaissent le lieu, qui courent plus aucun risque, qui est complètement faux. Et on se rend compte très souvent que c'est bien le contraire qui arrive.
Donc, la gestion des informations, la mise en place de dispositifs de sécurité, voire des assurances, évidemment, une formation, tout ça, évidemment, peut être pensé, organisé en amont hein, par les entreprises. Mais alors, lorsqu'on est confronté à la prise d'otage de l'un ou plusieurs de ses salariés, que faut-il faire? Qui faut-il contacter?
Oh bah c'est très simple pour une entreprise. En tout cas, il n'y a pas mille et une solutions, du moins. Ça deviendrait compliqué si c'était le cas. Il faut contacter directement le centre de crise du Quai d'Orsay. En tout cas, moi, c'est ce que je conseille. Alors après, pour certaines entreprises, il y a des voies détournées, mais sérieusement, le plus simple, c'est appeler l'ambassade sur place et puis contacter le centre de crise.
Ça se passe toujours comme ça, Christophe Coppen? On agit toujours avec le gouvernement, avec les assurances, ou parfois on fait autrement?
Eh bien, chaque entreprise, j'ai envie de dire, a ses procédures et ses modes opératoires. Olivier Assis disait avec beaucoup de justesse que la raison veut que l'on se tourne vers les autorités, vers le centre de crise qui est nomenclaturé, qui est structuré pour, etc., qui a les relais qu'il faut et la légitimité surtout pour intervenir et faire intervenir ces experts partout dans le monde. On a un énorme réseau diplomatique. Force est de constater quand même que certaines entreprises ont des pratiques particulières, ont des pratiques en fait de résolution, on va dire, à leur manière, parce qu'ils ont des réseaux, donc ils ont parfois eh bien, la tentation d'aller chercher des modes de résolution qui sont non pas par les voies officielles, mais par des voies officieuses.
Concrètement, on parle de voies officieuses, ça veut dire quoi?
Eh bien, par exemple, on peut avoir de très bons contacts avec des chefs Touareg dans une région sahélienne et savoir que eh bien, ces gens-là, tout de suite, ont été les premiers vecteurs d'information pour nous, qu'un de nos employés a eu un problème et est en difficulté à tel ou tel endroit. Donc, auquel cas, ben, la tentation peut-être, ma foi, de faire régler le problème par ce chef Touareg qui a toutes ses entrées et toute sa légitimité dans la zone. Voilà. Alors, ça peut devenir un intermédiaire et avec tous les risques que cela comporte, parce que dès lors que l'on est comme ça sur des modes de résolution qui sont officieux, eh bien, ma foi, on multiplie les risques.
Olivier Assil, vous souhaitiez réagir?
Oui, oui, Christophe a tout à fait raison. Il faut voir aussi la nature de la prise d'otage. Prenons le cas de l'Amérique du Sud. Il y a souvent ce qu'on appelle les flash kidnappings, c'est-à-dire des kidnappes qui durent quelques heures et qui se monnaient pour des centaines de dollars. Dans ce cadre-là, l'entreprise peut effectivement avoir la tentation qu'on comprend de recourir à ses propres services ou recourir d'ailleurs à des négociateurs comme le sont Christophe qui règlent rapidement le litige.
Pour éviter toute communication grand public.
Exactement. Oui. Et puis parce que c'est quelques centaines de dollars quand c'est beaucoup plus, quand ça risque de s'inscrire dans la durée, les modes opératoires sont très différents.
Guillaume Didier, vous êtes, je le disais tout à l'heure, directeur conseil chez Vaisolis Corporate. L'entreprise doit-elle communiquer ou non en cas de pareille crise?
L'entreprise, elle doit se doter d'une stratégie de communication. Il faut absolument, lorsqu'une crise telle que celle-ci arrive, prendre le temps de s'arrêter, de réfléchir, de mettre en place les process, d'agir en totale coordination avec les autorités. Il faut une stratégie de communication parce que toute communication peut mettre en danger la vie des otages. La priorité, on l'a dit tout à l'heure, c'est la vie des otages. Ensuite, c'est l'information des familles, rassurer les salariés et ensuite donner l'information au grand public.
J'aimerais vous comprendre, Guillaume Didier. Vous dites que l'entreprise, selon sa façon de communiquer, pourrait mettre en jeu la vie de ses salariés, concrètement en donnant quel type d'information, en communiquant de quelle manière?
Eh bien, par exemple, un chef d'entreprise qui voudrait communiquer et qui répondra à la question de savoir combien de salariés il a sur le site, s'il indique qu'il a 50 salariés sur le site alors que les preneurs d'otages en ont 40, ça va inciter les preneurs d'otages à aller chercher les 10 qu'il manque. De même que communiquer sur la nationalité de ces salariés peut les mettre grandement en danger. On l'a vu sur le site de Inanemas, il y avait 8 nationalités présentes. Si un chef d'entreprise dit qu'il a 10 Français plus des Franco-Algériens, ça peut mettre en danger des individus qui n'étaient pas considérés comme des Français par les preneurs d'otages. Donc, communiquer, oui, avec une stratégie bien établie en lien avec les autorités.
Alors concrètement, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit dans les médias? Parce que évidemment,
en tout cas, qu'est-ce qu'on ne dit pas? Je voudrais rebondir et je laisserai parler le spécialiste. Mais là, par rapport, j'ai quand même quelques réactions. On ne dit pas. Déjà, effectivement, il faut avoir une stratégie de communication et on se rend compte que finalement, un certain nombre d'entreprises n'en ont pas.
Bon, en même temps, on est rarement habitué à faire face à ce type de.
C'est-à-dire, surtout en termes de stratégie, que certaines directions disent on va faire ceci et que les autres ne suivent pas et que finalement, il n'y ait pas une réponse homogène au sein de l'entreprise. Si une entreprise décide, ce qui est son droit, de ne pas communiquer, elle ne communique pas. Il ne faut pas qu'il y ait le responsable d'une direction quelconque qui souhaite communiquer pour on ne sait pas à quelle raison. Ensuite, quand vous mettez effectivement en place une stratégie de communication, en tout cas dans ce type de cadre, vous ne dites pas vos implantations, vous ne dites pas le nombre de salariés, etc. Il y a un certain nombre d'informations qu'il faut garder confidentielles. Je suis surpris et nous en tant que CDSE on réagit à ça. Et d'ailleurs je pense qu'il faudrait quand même qu'on travaille avec l'association des journalistes sur ce sujet quand on a des situations de crise telles que celle-ci, que la vie de Français sont en jeu. Voir dans certains journaux les implantations, le nombre de salariés, etc. me paraît extrêmement dangereux pour la vie des personnes et presque, excusez-moi du terme, je vise pas tous les journalistes qui, pour un grand nombre, ont d'ailleurs sur cette crise-là, ont fait un travail remarquable, mais parfois c'est assez irresponsable, me semble-t-il.
Vous me disiez, il faut surtout réfléchir à ce qu'on ne dit pas. Ceci dit, que risque l'entreprise à ne pas communiquer du tout, Guillaume Didier?
Elle risque simplement de paraître totalement absente de cette crise, et il est quand même important que derrière une entreprise, les gens comprennent qu'il y a des hommes et des femmes qui sont inquiets, qui sont mobilisés. En matière de communication de crise, on dit souvent qu'il faut de la transparence. Ça, c'est particulièrement difficile dans, en matière de lutte contre le terrorisme. Il faut de l'empathie, c'est-à-dire montrer que on a vraiment, on est mobilisé pour face à la douleur, à la souffrance, à l'inquiétude des salariés et des familles. Il faut montrer que l'entreprise est mobilisée pour agir. Donc, nous préconisons de communiquer en lien avec les autorités, simplement pour que tout le monde soit rassuré sur la capacité de l'entreprise à faire face à cette crise majeure. Il y va aussi de la réputation de l'entreprise à long terme.
Très rapidement, comment l'entreprise...
Uniquement pour rebondir très rapidement, il y a deux types de communication. Il y a une communication externe et une communication interne. Pour avoir un peu un retour, les entreprises, on peut souhaiter avoir de communication externe et on peut le comprendre. En revanche, il y a eu énormément de communication interne via l'intranet, via des messages d'alerte, via des messages d'information, etc. Ou des réseaux sociaux fermés. Les directions sécurité ont été sur le pont 24 heures sur 24 et ont envoyé des messages de vigilance, de prudence, d'information. Il y a des hotlines qui sont mises en place. Vraiment, il y a eu un travail remarquable pour toutes les entreprises que je connais sur Zone.
Donc, il ne faut pas se taire, en tout cas, dans l'entreprise. Comment réagissent les proches des victimes ou des otages?
Ils sont particulièrement inquiets parce que maintenant les terroristes...
J'entends quand l'entreprise communique notamment.
Alors, je pense que c'est important, ça les rassure. Ça leur montre qu'ils ne sont pas seuls. Ça leur montre que l'entreprise est mobilisée. Il faut savoir que les terroristes savent parfaitement utiliser les médias, particulièrement les réseaux sociaux, et que le silence absolu d'une entreprise peut être très très mal vécu par les familles des victimes, par les salariés en interne, par les clients, par les fournisseurs. Il faut communiquer avec le ton juste en toute crise.
Alors on a évoqué des terroristes qui pratiquaient la désinformation, notamment sur Twitter, sur Facebook. Est-ce que c'est conseillé d'utiliser cette même désinformation ?
Sauf si elle fait partie de la stratégie élaborée par les autorités françaises pour résoudre la crise, évidemment, nous on déconseille à toute entreprise de délivrer des informations qui ne soient pas exactes. Il ne faut jamais mentir lorsqu'on est en phase de communication de crise.
Olivier Assine ?
Non, je suis tout à fait d'accord. Non, il faut surtout pas s'amuser à ce type de petit jeu.
Alors, on va passer très rapidement aux dernières questions. Le temps nous est compté. Si le chef d'entreprise est lui-même pris en otage, et du coup, cette question est évidemment valable pour les salariés, quelle est la posture à adopter, Christophe Coppen? Je le rappelle, ancien patron des négociateurs du RAID.
Eh bien, il faut prendre son mal en patience et essayer de ne pas faire déraper la situation. Prendre son mal en patience, ça veut dire que on doit avoir à l'esprit que l'ensemble des autorités, tous les moyens de l'État sont mis en jeu afin d'essayer de résoudre la situation terrible dans laquelle on se trouve. Donc on est le pôle d'intérêt réel de l'État pendant tout le temps de cette crise-là. Et il faut se rassurer parce que ça va durer peut-être longtemps, très longtemps. Donc avec un moral d'acier, avec un bon moral, si du moins, eh bien, on va avoir peut-être des chances de justement conserver cette lucidité, ce calme et cette neutralité qui sont très importants pour pouvoir survivre à ce type d'événement. Ensuite, il y a des syndromes au fur et à mesure que l'on passe du temps avec des ravisseurs, notamment des ravisseurs violents. Il se passe des modifications cognitives et à ce moment-là, des syndromes peuvent apparaître, des syndromes d'adaptation en fait du psychisme de la victime à ses ravisseurs dans un sens de collaboration ou dans un sens d'opposition. La collaboration, c'est pour essayer d'être le mieux possible avec eux. Et dans l'opposition, c'est quelque part de provoquer une réaction de clash qui va faire qu'on va être abattu. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, quelque part, lorsque l'on n'arrive pas à s'évader, ben, ma foi, la mort est une forme d'évasion à une souffrance qui est trop mal. Donc, attention, bien sûr, à ne pas... dramatiser non plus ce genre de comportement. Il y a énormément de prises d'otages qui restent dans un laps de temps qui lui-même ne génère pas trop de perturbations au niveau du psychisme, même si le simple fait d'être retenu, pris en otage, menacé de mort, etc., suffit en soi à créer des traumatismes importants. Mais lorsque ça atteint des échelles de temps très importantes, comme par exemple les prises d'otages en Colombie,
Olivier Assil, je vous coupe, Christophe Coppen, je le rappelle, vous êtes par téléphone, vous ne me voyez donc pas faire un signe. Olivier Assil souhaitait réagir à vos propos.
Très très rapidement, vous posez une question très importante. En fait, vous posez la question de savoir si le chef d'entreprise est remplaçable dans son entreprise. Et c'est le point essentiel en matière de dispositifs de gestion de crise. Il faut pouvoir, pour avoir été risk manager, j'ai travaillé sur ça et j'invite tous les directeurs de PME, PMI à faire ce travail, c'est qui peut le remplacer ? Parce que vous avez, pendant que vous avez votre chef d'entreprise qui est prise en otage, il faut que l'entreprise continue à fonctionner et puis il faut un gestionnaire de crise au sein de la PME, PMI. Donc il est important, et là je pense que c'est un bon point de conclusion, c'est que le directeur général fasse cet exercice. Qui peut me remplacer ? À qui je peux donner les clés en toute confiance et qui va pouvoir assurer la gestion de crise quand je ne serai pas là, même si ça dure plusieurs semaines, plusieurs mois. Et ce travail est important, ce travail de réflexion est essentiel à la pérennité de l'entreprise.
Une crise peut être bien gérée si elle a été prévenue. Et la démarche de prévention des risques avec une cartographie précise des risques, avec des process, avec un manuel de crise précis permet à chacun, même dans le cas extrême où le chef d'entreprise est pris en otage ou est indisponible, eh bien qu'il y ait quelqu'un pour le remplacer et que l'entreprise continue à poursuivre son activité et que les décisions importantes puissent être prises.
Le temps nous est compté, on passe aux questions flash et il n'y en aura qu'une. Alors messieurs, selon Paris Match, le groupe islamiste armé de Mokhtar Belmokhtar menace de commettre de nouvelles attaques, notamment contre la France. Les cibles potentielles sont-elles nombreuses ? Olivier Assid.
Ça m'est difficile de répondre à ce sujet. J'ai une petite idée, mais il ne s'agit pas trop de communiquer. Oui, il y en a partout. La seule chose, c'est quand même, il faut arrêter le catastrophisme. La capacité de projection du terrorisme international depuis quelques années, c'est considérablement réduit. Alors, je ne dis pas que ça ne peut pas se passer, mais on a des services de renseignement ultra efficaces. Et je vous dis, la capacité de projection, c'est atténué. Alors demain, il n'est pas impossible qu'il se passe quelque chose. On espère que non. Mais effectivement, vous avez des sites sensibles et ces sites ont été renforcés naturellement.
Ma question est la suivante. Hein. Faut-il renforcer la sécurité aujourd'hui dans les entreprises présentes à l'étranger ?
Évidemment, il faut renforcer la sécurité des entreprises, mais ne donnons pas une tribune aux terroristes. Nous avons la chance d'avoir en France un des systèmes antiterroristes les plus performants au monde, que ce soit au niveau des services de renseignement que des services de judiciaires. Donc ayons confiance dans les autorités françaises qui savent parfaitement évaluer le risque terroriste, et les entreprises doivent effectivement écouter les préconisations des autorités françaises, en particulier pour celles qui sont à l'étranger, du centre de crise du ministère des Affaires étrangères.
Donc de la prévention avant tout. Je remercie nos invités. Christophe Coppen était avec nous par téléphone. Je le rappelle, ancien patron des négociateurs du RAID, aujourd'hui à la tête de Coppen Conseil, conseil en formation et matière de sûreté et gestion des conflits, ainsi qu'en négociation complexe. Olivier Assid était avec nous, directeur général du club des directeurs de sécurité d'entreprise, également directeur de la revue Sécurité Stratégie. Et enfin, Guillaume Didier, merci également. Je le rappelle, ex-porte-parole et ancien magistrat au bureau de la lutte contre le terrorisme au ministère de la Justice. Aujourd'hui, vous êtes directeur conseil chez VAE Solis Corporate. Merci à vous, chers auditeurs, et on se retrouve dès la semaine prochaine.